Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil de développement Estuaire et Sillon a par sa vocation d'être une instance de participation citoyenne, lieu d'échange de propositions dans le respect de la démocratie contractuelle. Cette instance indépendante mène plusieurs thèmes de réflexion. Ce soir, un thème qui est notre quotidien, directement ou indirectement, mais qui nous concerne tous. Comment réenraciner l'économie sur notre territoire? Deux groupes de travail du Conseil de développement sont liés à cette soirée. Le groupe de développement économie, avec la réflexion sur l'identité rurale de notre territoire. Les membres de ce groupe vous ont sollicité par un bref questionnaire sur cette identité, est-elle rurale, urbaine ou autre. Un deuxième groupe, le groupe développement durable, afin que chaque habitant citoyen participe à la réflexion collective, pas individuelle, pas sectorielle, à la réflexion territoriale sur le plan climat de notre, sur le plan climat, air, énergie de notre territoire. Vous avez dû voir les tableaux dans le hall. Les membres de ce groupe sont d'ailleurs à votre disposition pour présenter leurs propositions et avis. 86% des Français estiment que l'économie locale est une clé pour répondre aux enjeux majeurs actuels. En partant de ce constat, comment repenser les échanges sur le territoire Estuaire et Sillon, qui est notre bien commun à nous tous. Dans ce périmètre, coincé entre la métropole nantaise et l'agglomération nazérienne, 38 000 habitants vivent. Comment ces habitants consomment, font-ils vivre l'économie locale? Cette économie locale répond-elle à leurs attentes? Car nous sommes tous des consommateurs, avant tout des acteurs de notre économie. Dans ce moment de turbulence où on traite les infos dans les médias, où nous devons réagir dans les médias, le Conseil de développement, lui, ce soir, avec le recul propre à son ADN, le pas décalé, a invité un économiste, Arnaud Florentin. Arnaud Florentin est directeur associé du cabinet Utopie, qu'il a rejoint amenant avec lui plus de 25 ans d'analyse, d'études sur l'empreinte économique. Ce moment de conférence se veut aussi un moment convivial, sans idées partisanes, mais de débat et d'échange. Elle va se dérouler en trois phases. Un audit, une analyse du territoire, pendant environ un quart d'heure, 20 minutes, puis environ 5 à 10 minutes d'échange, ensuite des exemples d'entrepreneuriat, puis de nouveau des échanges, puis nous finirons par comment faire émerger de nouveaux entrepreneurs sur le territoire. Puis ensuite, nous pourrons aborder d'autres questions. Pour faciliter ces échanges, vous avez à votre disposition des micros, ainsi que des feuilles de papier pour certains. À chaque moment de participation, nous pourrons aussi noter vos principales idées sur le tableau ici présent. Maintenant, je laisse la place à Arnaud Florentin.
Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là parmi vous pour parler de ce beau sujet du réenracinement de l'économie dans les territoires. Comme Luc l'a rappelé, c'est un sujet clé pour beaucoup de territoires. C'est un sujet clé du point de vue économique, mais aussi du point de vue environnemental. Donc il fait écho à des problématiques de développement économique, mais aussi de transition du territoire. Au sein du cabinet Utopie que je représente, alors ça fait pas 25 ans que je fais de l'économie, un petit peu moins, mais le cabinet existe depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, le cabinet Utopie, donc, qui est le premier cabinet de conseil en développement durable de France, à s'être créé, du moins. Et c'est aujourd'hui une cinquantaine de personnes dont l'objectif quotidien est de pousser des nouveaux sujets, d'ouvrir des portes, d'ouvrir de nouvelles voies. Et aujourd'hui, il y a une voie qui est importante, c'est en tout cas celle qu'on porte, qui consiste à faire converger le développement économique et le développement durable. Ce sont deux choses, et une seule et même chose. Et vous verrez à travers la présentation d'aujourd'hui qu'on ne fait pas la différence entre les deux et qu'aujourd'hui, quand on parle de développement économique, il faut le voir comme durable et notre territoire ne sera pas durable si économiquement pas viable. La question du local, c'est une question clé, c'est une question que vous entendez tous les jours parler. Il n'y a pas un média qui ne parle du local, il n'y a pas une entreprise qui, dans sa stratégie, ne parle pas de local, ni même des marques. J'aime beaucoup cette citation moi, de Victor Hugo, qui dit qu'il n'y a rien de plus puissant au monde qu'une idée dont l'heure est venue. Et effectivement, aujourd'hui, celle du local est importante. Local, non pas comme effet de mode, mais local comme véritable point d'acupuncture du changement sur nos territoires. C'est le lieu, c'est la façon de faire changer les choses, et dans beaucoup de domaines. Alors, Luc m'a piqué mon chiffre tout à l'heure. Mais effectivement, il y a une petite étude qu'on a sortie il y a deux ans de cela, où on a interrogé plusieurs milliers de Français. On leur a posé pas mal de questions sur c'est quoi pour vous le local, et quel est, selon vous, l'intérêt du local. Et il y a notamment deux chiffres de cette étude qui sont ressortis. Le premier qui montre que 8 Français sur 10 pensent que le local, c'est la meilleure solution pour répondre aux enjeux environnementaux. Et quasiment autant, un peu plus, 86%, qui estiment que le local est une clé pour travailler sur les enjeux économiques et sociaux. Un chiffre qui n'est pas présenté ici, mais lorsqu'on demande aux Français quel est pour vous, c'est quoi le périmètre local le plus pertinent, aux trois quarts, ça ne dépasse pas le département, c'est-à-dire que c'est le quartier, la ville ou le département lui-même, enfin l'aire urbaine, le département. Donc la notion de local, c'est quelque chose de relativement restreint, sur lequel il y a beaucoup d'attentes de la part des Français et sur lequel on peut agir dans beaucoup de domaines. Je fais une toute petite introduction sur pourquoi réenraciner l'économie dans les territoires, parce que l'idée, c'est pas de s'arrêter au local comme effet de mode, le local, l'aspect marketing qu'on voit aussi, beaucoup aujourd'hui autour du local. C'est à travers des pistes vous montrer qu'il est aujourd'hui non pas nécessaire, mais il est incontournable de réenraciner dans l'économie sur nos territoires. On n'a plus trop le choix, d'une certaine façon. Il y a un enjeu de rééquilibrage et de nécessité de réenraciner l'économie sur nos territoires, quels que soient les territoires, que ce soit des villes ou des territoires plus ruraux. Traditionnellement, quand on parle de développement économique, enfin même depuis très longtemps, on pense l'économie locale comme un seau qu'il faut remplir en allant chercher des richesses extérieures. Donc c'est quel que soit l'endroit du monde où vous vous situez, quelle que soit la taille du territoire, quand on parle de développement économique, c'est un développement dit exogène, c'est-à-dire qu'on va chercher des ressources à l'extérieur. On va exporter, on va implanter des entreprises, on va chercher à capter des nouveaux touristes, des nouveaux habitants, capter tout un tas de nouvelles ressources extérieures. Si on prend l'image, une analogie que moi j'aime beaucoup, c'est celle du seau percé, on se rend compte que une économie locale, qui serait un seau, une économie locale qui n'est incapable de capter des richesses extérieures, c'est une économie locale qui va mal. Mais est-ce qu'il est suffisant pour créer les conditions d'une prospérité locale de travailler uniquement sur la captation de richesses extérieures? La réponse est non, puisque si on reprend cette analogie du seau, les économies locales ressemblent de plus en plus à des seaux percés, c'est-à-dire des économies dans lesquelles on injecte beaucoup de flux, mais des flux qui ne restent pas suffisamment sur les territoires, qui sortent très vite, parfois trop vite des territoires. Que dire des territoires qui ne remplissent même plus le seau? J'y reviendrai tout à l'heure. Vous êtes dans un territoire qui arrive à capter des richesses, mais beaucoup de territoires en France n'arrivent même plus à remplir le seau, et le seau continue de se vider, et ça crée des énormes fractures territoriales qui amènent aux situations notamment actuelles. Une autre analogie que j'aime beaucoup, c'est celle du flipper. On peut considérer l'économie d'un territoire comme un flipper. C'est-à-dire que si on n'a pas de billes extérieures, on ne peut pas jouer au flipper, mais une économie sera d'autant plus prospère qu'on sera capable de garder les richesses en son sein et le plus durablement possible. Un peu comme un flipper, où effectivement, vous rentrez une bille dans le flipper et à travers des jeux, des bumpers, etc. L'idée, c'est que vous marquerez le plus de points, plus vous serez capable de garder la bille le plus longtemps possible et avec le plus d'interactions possible au sein du flipper. Au sein d'une économie locale, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'injecter une bille dedans, il faut pouvoir la garder le plus durablement possible, et c'est aujourd'hui ça qui se situe vraiment dans l'angle mort des politiques économiques, c'est la capacité de nombreux territoires à garder la bille le plus longtemps possible. Cette incapacité à garder suffisamment les richesses a plusieurs conséquences. Une première conséquence, c'est la perte d'autonomie des territoires. La perte d'autonomie, on peut l'observer dans pas mal de domaines. Le domaine de l'alimentation, le domaine de l'énergie, le domaine de la fabrication. Ces deux dernières années, on a réalisé plusieurs études au sein du cabinet Utopie. Par exemple, une étude sur l'autonomie alimentaire des aires urbaines. Et on arrive à un chiffre assez bas. On s'est rendu compte que l'autonomie des villes est en moyenne de 2%. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes dans une région où l'autonomie alimentaire est légèrement supérieure à ce chiffre. On va atteindre 3, 4, 5%. Ça veut dire que dans tout ce que vous mangez, tous les produits agricoles qui composent vos assiettes, vos repas, ce sont des produits agricoles qui, à 98% en moyenne, viennent de l'extérieur. Donc on pourrait se dire, bon, ben, il n'y a peut-être pas les ressources agricoles suffisantes. Et quand on fait le calcul en sens inverse et qu'on regarde dans quelles assiettes finissent les produits agricoles locaux, ben, 97% ils finissent dans les assiettes d'autres. Donc en fait, on a un système un petit peu paradoxal où la quasi-intégralité de ce qu'on produit finit dans les assiettes d'autres et la quasi-intégralité de ce qu'on consomme vient d'agriculture, d'une agriculture extérieure. Donc en fait, on voit bien que la question de l'autonomie, qui est très présente aujourd'hui dans les médias, dans les discours, n'est pas là. Et c'est une question qu'on peut élargir à l'autonomie économique de tous les territoires. On a réalisé une seconde étude sur les villes fabricantes et on a cherché à comprendre quelle était la capacité des villes à produire ce que les gens consomment. Et on arrive à un chiffre de 3% en moyenne, ce qui est relativement bas. On se rend compte que les territoires n'arrivent plus à produire suffisamment ce que consomment les ménages sur les territoires. Donc se pose aujourd'hui une vraie question en termes d'autonomie économique qui a des conséquences en matière écologique et de vraie résilience des territoires. On a aujourd'hui des territoires qui sont de plus en plus dépendants et vulnérables à des matières premières, à des ressources extérieures, souvent très lointaines, et qui rendent les territoires très vulnérables dans la mesure où ces ressources sont en train de disparaître, de se raréfier, d'être dépendantes d'aléas climatiques, d'aléas politiques. Donc on parle de plusieurs ressources, ça peut être des ressources biomasse, des minerais métalliques, des minerais non métalliques, des énergies fossiles, dont on sait aujourd'hui qu'elles se raréfient et dont les cours augmentent beaucoup. Là, je vous ai mis quelques exemples. Vous les avez à l'écran. C'est la quantité de matière première qui est invisible, qui est la quantité de matière première qui a été nécessaire de l'extraction jusqu'au transport des produits dans nos magasins. Donc, par exemple, pour produire un ordinateur portable comme celui-ci, il faut mobiliser dans le monde 100 kg de matière première. C'est énorme. Et là, vous avez quelques exemples du quotidien en kilogrammes, c'est-à-dire la quantité de matière première qui est mobilisée pour produire ce bien. C'est une quantité qui est invisible, et c'est une quantité qui pourtant expose le territoire en termes de ressources naturelles. Et ça, c'est un enjeu dont on parle peut-être un peu moins souvent, que la question du carbone, du CO2, du réchauffement climatique, mais qui est un vrai souci pour les territoires, dans quelle mesure ils sont aujourd'hui vulnérables. Et ça, c'est une question qui est très liée à la question de l'autonomie dont je parlais juste avant. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu de réenraciner l'économie dans les territoires, un enjeu économique, un enjeu environnemental. Je n'ai pas forcément parlé de l'enjeu social, puisqu'on a des fractures de plus en plus importantes entre territoires. Quelque chose qui se joue aujourd'hui et qui est une vraie chance pour l'ensemble des territoires, notamment les territoires ruraux, c'est la quatrième révolution industrielle. Quatrième révolution industrielle qui est portée notamment par le digital et qui aujourd'hui permet de redistribuer l'économie dans les territoires. On parle d'économie distribuée ou de capitalisme distribué, ça dépend des appellations. On est passé d'une période pré-capitaliste où on était quelque chose qui était assez éclaté La première révolution industrielle a vraiment centralisé autour de la mécanisation. On a eu ensuite une centralisation avec des grands sites de production et la révolution électrique. On a eu la révolution digitale dans les années 90-2000 et on a aujourd'hui une révolution qui est portée par notamment le digital, mais pas que, plein de piliers qui constituent une nouvelle révolution où on décentralise de plus en plus la production sur les territoires. Et c'est une chance, donc je reviendrai, je vous montrerai quelques exemples dans les minutes qui suivent, c'est une véritable chance pour les territoires pour reprendre la place dans l'économie et donner un nouveau souffle à certaines économies rurales ou des économies qui sont aujourd'hui de côté. Luc a parlé tout à l'heure d'un petit diagnostic que l'on a réalisé sur votre territoire. Avant une fois qu'on a posé la question du réenracinement et de ses enjeux, on a cherché à l'illustrer avec des chiffres de votre territoire, des chiffres que l'on a calculés au sein du cabinet Utopie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails méthodologiques, mais avec un outil assez puissant, un outil qui est capable de comprendre le fonctionnement de votre territoire. Donc vous verrez, il y a peut-être des chiffres qui vont vous étonner, des chiffres assez nouveaux. Donc on a fait un petit diagnostic sur le territoire estival et Sillon pour vraiment comprendre quels étaient les enjeux du réenracinement. On a tout d'abord, avant de regarder ce qui sort du territoire, on a cherché à comprendre quelles étaient les richesses qui entraient. Et effectivement, si vous reprenez tout à l'heure, j'ai présenté l'image du Sceau, où on voyait la quantité de richesses qu'un territoire était capable de capter. Vous êtes un territoire qui fait rentrer des richesses dans le Sceau, ça c'est clair. Vous avez un revenu médian sur le territoire d'Estuaire-et-Sillon qui est aujourd'hui un revenu médian par unité de consommation, donc il faut traduire en gros revenu médian par ménage, même si ce n'est pas tout à fait ça, qui est aux alentours de 21 700 euros sur le territoire. La moyenne française, c'est un peu plus de 20 000 euros. Vous êtes significativement au-dessous de la moyenne française, donc il n'y a pas un souci majeur de prospérité. Vous avez un niveau de production qui est relativement élevé, 1,46 milliard de production sur votre territoire, et 59%, quasiment 60% de cette production est exportée, c'est-à-dire est vendue à l'extérieur. C'est des biens, c'est des services, c'est aussi du tourisme, ça rentre dans les exportations. La somme des exportations et du tourisme, ça représente sur le territoire estuaire et Sillon aujourd'hui un peu plus de 870 millions d'euros, donc c'est beaucoup. Vous avez le détail des secteurs qui est juste en dessous là, donc on voit l'énergie, alors, donc avec le site EDF existant qui rentre dans les statistiques, mais pas que, hein, l'énergie ça couvre aussi d'autres secteurs. Les industries agroalimentaires, 136 millions d'euros, le commerce, le négoce, transport, logistique, métallurgie, etc. Donc on voit qu'il y a quand même un gros tissu économique qui arrive à porter le territoire et à capter des richesses. Et c'est relativement important pour votre territoire. C'est ce qui contribue notamment à avoir un revenu médian supérieur à la moyenne française. Ça, c'est une vision des richesses que vous captez, de la capacité à capter des revenus à l'extérieur du territoire. Mais si vous reprenez l'image du Sceau percé que j'ai présenté à l'instant, il y a quelque chose qu'on n'observe pas forcément toujours facilement sur les territoires, c'est la notion de fuite économique, donc ce qui fuite du Sceau. Et en l'occurrence, sur votre territoire, vous avez d'importantes fuites économiques, aussi parce que vous captez beaucoup de richesses, mais ça sort beaucoup du territoire. La demande locale, c'est quelque chose qui est assez important, qui n'est pas forcément toujours connu des territoires, et qui pourtant constitue un véritable actif économique. Ce qu'on appelle demande locale, c'est toutes les dépenses des ménages, des entreprises et du secteur public. En gros, tous les besoins du territoire. C'est aujourd'hui près d'1,7 milliard d'euros. C'est beaucoup, ça représente un montant important. Quand je parle d'actif économique, c'est pas sans raison, c'est que on voit qu'il y a quand même une vraie ressource. C'est à peu près 920 millions d'euros de dépenses des entreprises et du secteur public, et les dépenses des ménages, c'est un peu plus de 720 millions d'euros. Sur ce 1,68 milliard d'euros, la part qui est importée, c'est-à-dire la part de cette demande qui trouve une réponse à l'extérieur du territoire, quand on dit importé, c'est pas forcément l'étranger, ça peut être le territoire juste à côté, c'est 67%. Ça représente en euros 1,13 milliard d'euros qui sortent, et vous avez le détail pour les entreprises et pour les ménages. Si on exprime ces fuites en emplois, ça représente un peu plus de 8 200 emplois, et vous avez également le détail entre la demande des entreprises et la demande des ménages juste en dessous. Un chiffre qui est très intéressant, si on arrive à remplacer certaines de ces dépenses à l'extérieur qui pourraient légitimement trouver une réponse à l'intérieur, ne serait-ce qu'à hauteur de 1%, on pourrait créer plus de 80 emplois sur le territoire. C'est intéressant, ce raisonnement est intéressant parce qu'on voit bien que dans la limite, bien évidemment, vous n'allez pas aller vers l'autarcie, vers l'autonomie totale, mais un petit rééquilibrage, un travail sur l'économie locale peut créer des emplois, un certain nombre d'emplois, peut-être à moindre frais comparativement à une politique qui consisterait à en attirer de l'extérieur. On voit bien que réduire 1% des fuites du territoire, ça fait plus de 80 emplois. Vous voyez bien ce que ça peut impliquer d'attirer une société de 80 emplois sur votre territoire. Donc on voit bien que c'est intéressant, c'est une autre manière de faire du développement économique de l'intérieur. C'est une façon de faire du développement économique comme une autre. Et c'est quelque chose qui est souvent dans l'angle mort du développement économique, se dire qu'on peut aussi développer le territoire à l'envers, de l'intérieur. Alors là, c'est un grand tableau, mais qui est très intéressant. C'est les fuites dont je vous ai parlé à l'instant en potentiel d'emploi. Donc, si vous reprenez la demande locale, l'ensemble de la demande du territoire, des entreprises, des ménages et du secteur public, par poste d'achat, par poste de dépense, c'est la première colonne. Donc là, vous l'avez en millions d'euros, tout ce qui est dépensé par l'ensemble des acteurs économiques du territoire et par poste d'achat. La deuxième colonne, c'est la part de cette demande qui est importée. Et vous voyez dans les cellules roses, rouges, pardon pour la nuance, ce sont des postes d'achat ou de dépenses où la dépense se fait beaucoup à l'extérieur. Et en jaune, ce sont des postes d'achat où le territoire arrive quand même à se positionner. Et la troisième colonne, c'est le potentiel d'emploi. Bien évidemment, sous l'hypothèse de réenraciner 100%, mais je rappelle encore une fois, c'est ni souhaitable ni réalisable. Mais juste pour avoir une idée du potentiel d'emploi correspondant aux fuites économiques sur chacun de ces postes d'achat. Et là, c'est très intéressant. On voit qu'il y a des opportunités dans tous les secteurs d'activité, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les industries, dans les services. Vous voyez, par exemple, les services, c'est ce que vous avez vers le bas. Service automobile, transport logistique. Le secteur santé, éducation sociale, c'est 1 500 emplois à l'extérieur du territoire qui répondent aux besoins des habitants. Donc ça, c'est et des entreprises et du secteur public. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de fuites dans le domaine des services aussi et un certain nombre de fuites en emploi dans les secteurs productifs. Et donc ce tableau a un intérêt, c'est de se dire que on peut développer le territoire de l'intérieur avec toute une série de modèles entrepreneuriaux, j'y reviendrai juste après, et dans toute une série de secteurs d'activité. C'est-à-dire, bien évidemment, il y a les services à la personne, les services aux entreprises, mais il y a tous les secteurs productifs, et on voit qu'il y a du potentiel partout. Il n'y a pas de limite, technique, j'ai envie de dire, à envisager des nouveaux secteurs d'activité dans tous les secteurs que vous avez ici à l'écran. Donc c'est ça l'intérêt aujourd'hui de se dire que développer le territoire de l'intérieur, oui, c'est possible, à condition d'identifier les fuites économiques, à condition d'identifier les secteurs où il y a du potentiel. Pour faire un bilan complet et un diagnostic complet de votre territoire et des enjeux au réenracinement économique local, il nous semblait important aussi de donner une vision écologique et des enjeux écologiques sur votre territoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'empreinte matière première, c'est-à-dire la quantité de matière première qui était incorporée dans toutes les importations du territoire. On a mesuré cette empreinte matière première pour le territoire estuaire et Sillon. On a regardé quelle était l'empreinte annuelle par habitant. Donc ça, c'est la première colonne. Et la part de cette empreinte qui était en dehors de la France, c'est-à-dire dans le monde. C'est assez intéressant parce que c'est souvent très loin de chez nous et c'est une pollution et une mobilisation de matières premières qu'on ne voit pas. Donc on a regardé la matière première, j'y reviendrai, on a regardé aussi tous les indicateurs environnementaux, toute la pollution du territoire, et elle est relativement importante. Donc on a regardé le carbone, on a regardé l'empreinte matière première, on a regardé l'eau, la quantité d'eau qui était utilisée dans le monde pour le fonctionnement économique du territoire, et la quantité de terre qui était mobilisée, qui est mobilisée dans le monde pour le fonctionnement du territoire. J'y reviendrai juste après. Le carbone, donc là c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, l'empreinte carbone, c'est-à-dire la quantité de carbone émise dans le monde par habitant pour le fonctionnement de votre territoire, c'est chaque année 18 tonnes de CO2, et c'est 49% de cette pollution qui est en dehors de France, donc c'est, on voit bien que c'est assez important. En moyenne, on est sur 10-12 tonnes par habitant en France, mais à la limite, peu importe la comparaison avec la moyenne française. Ce qui est assez intéressant, c'est de se dire que quand on parle d'autonomie économique, on pourrait y voir uniquement une question, question d'emploi, en fait. En réalité, c'est un véritable enjeu de transition, parce que plus vous êtes capable de réenraciner votre économie, plus vous êtes capable de séquestrer le carbone sur votre territoire et de ne pas aller le comptabiliser dans les émissions d'autres pays. Je rappelle que lorsqu'on a signé l'accord de Paris, la COP21, tous les pays se sont engagés sur un niveau d'émission, et on a tapé beaucoup sur les pays pollueurs, on les appelle, la Chine, etc. On leur a dit, oui, vous êtes des méchants, vous polluez beaucoup. Ce qu'on oublie de voir, c'est que dans leur pollution, il y a la nôtre. La pollution des usines chinoises, c'est notre consommation. Et je pourrais parler d'autres pays comme ça. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce chiffre-là, parce que c'est une pollution qui n'est pas forcément visible chez nous, mais qui est ailleurs. Donc il y a un enjeu vraiment à la séquestrer. L'empreinte matière, j'en parle à l'instant, au total, par habitant et par an, c'est 72 tonnes de matière première, c'est beaucoup, par habitant, pour le fonctionnement économique du territoire. C'est juste considérable. 65% de ces matières premières sont mobilisées ailleurs dans le monde. La biomasse, 38 tonnes, les minerais métalliques, 4 tonnes, minerais non métalliques, 21 tonnes, et les énergies fossiles, 8 tonnes. Donc c'est relativement important. C'est des matières premières qu'on pourrait se dire que par des boucles locales, j'y reviendrai, par des modèles économiques qui visent à réutiliser des matières existantes, on pourrait éviter. Et ça pourrait créer de nouvelles activités. L'empreinte eau, alors ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours visible, c'est aujourd'hui près de 1500 m3 par habitant. Et l'empreinte eau, elle est très loin de nos frontières, puisque 70% de l'eau qui est mobilisée dans le monde pour le fonctionnement de votre territoire, se fait en dehors des frontières françaises. Et puis, une empreinte qui a un impact aujourd'hui sur la biodiversité, notamment, c'est l'empreinte terre, c'est-à-dire la mobilisation des sols pour le fonctionnement de votre territoire. C'est aujourd'hui 90 000 m² par habitant, dont 75% de la mobilisation des sols, donc ça peut être des forêts, des sols arables, ça peut être des prés, mais c'est souvent des forêts qui sont du coup disparaissent. Et donc c'est par habitant 90 000 m² de forêt. Il faut savoir qu'un terrain de foot, c'est 7 000 m². Donc c'est relativement important. Et c'est une empreinte qui n'est pas forcément visible, qui se situe en Afrique, en Amérique latine, etc. Et là, on voit bien l'intérêt de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des modèles économiques à développer sur le territoire pour réduire notre empreinte terre ailleurs? Cette dernière slide est très importante parce que quand je parlais de convergence entre développement économique et développement durable, on le voit bien ici. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement ne pas être convaincu par certaines questions économiques, parce que vous pouvez très bien dire on a un territoire qui est suffisamment prospère, après tout on a 1600 euros de plus que la moyenne nationale, là vous avez quand même un enjeu environnemental qui pose la responsabilité environnementale d'un territoire, quel que soit le territoire, et puis qui pose aussi la vulnérabilité future, c'est-à-dire que être vulnérable sur le plan de la biomasse, sur le plan des énergies fossiles, sur le plan des minerais métalliques ou non métalliques, c'est une future vulnérabilité économique du territoire, donc on peut aussi y voir un argument économique. Donc voilà sur le diagnostic du territoire, qui consiste à y voir en fait l'enjeu du réenracinement sur le territoire. Quand on parle de local, c'est pas qu'un effet de mode,
C'est pas parce que les consommateurs veulent du local pour des raisons, souvent, parce qu'il y a souvent des petits enjeux patriotiques derrière, c'est ce qu'on trouve beaucoup sur Made in France. La question du réenracinement, elle est nécessaire d'un point de vue économique, social et environnemental, et du coup, elle appelle à réfléchir à une nouvelle manière de faire du développement économique. Et je vais vous présenter quelques exemples juste après. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions sur ce diagnostic économique. C'est un petit peu technique, mais ça me semblait nécessaire avant de rentrer dans des choses plus inspirantes, plus simples aussi et plus opérationnelles. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce diagnostic de territoire, s'il y a des choses qui vous étonnent.
Il y a des membres du conseil de développement qui vont passer, il y en a un de chaque côté. Et si vous êtes plus à l'aise à poser des questions par écrit que par oral, il y a deux personnes qui vont passer aussi dans les rangs avec des corbeilles pour prendre des questions écrites si c'est plus simple pour vous. Monsieur devant, s'il vous plaît.
Bonsoir. J'ai une question par rapport à, on parle de autonomie des territoires. Je trouve qu'il... Alors, je suis ici, je vais vous chercher des regards. Je suis là. Vous n'avez pas de données sur les flux de personnes qui rentrent pour travailler sur le territoire et les personnes qui en sortent, parce que je pense qu'on est un territoire qui est particulièrement sensible par rapport à ça. On est vraiment coincé entre deux très grandes villes, entre Nantes et Saint-Nazaire, et je pense que c'est un impact écologique qui est super important, tous les flux de personnes qui partent en voiture. Et puis, je trouve que c'est vraiment une donnée qui est essentielle par rapport à... pour avoir la visualisation de ce qui se fait en local et de ce qui se fait à l'extérieur, parce que quand on parle des revenus, moi de la vision que j'en ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont avoir des forts revenus et qui vont aller chercher ces revenus à Nantes ou à Saint-Nazaire.
Pour être super transparente, dans le cadre de la présentation, on a anticipé de faire un diagnostic. On n'a pas réalisé une étude sous format papier, elle n'existe pas, c'est un diagnostic flash qui a été fait pour cette présentation. Et on a commandé des statistiques auprès de l'INSEE et qu'on n'a pas reçu à temps sur les flux de personnes. Parce qu'en fait, il y a des flux de personnes, il y a le lieu de travail, le lieu de vie, et c'est quelque chose qui est essentiel dans la captation de richesses extérieures, je vous l'accorde, et aussi dans l'empreinte. Et c'est des données qui sont relativement fines et qu'il faut avoir sur le maître du territoire. C'est des données qu'on n'a pas eu à temps pour faire le diagnostic complet. Dit autrement, le diagnostic se base uniquement sur des flux de marchandises ou de services. Pas pour l'empreinte, enfin, si pour l'empreinte matière, si vous avez raison, et pour la compréhension de votre prospérité, c'est-à-dire ce qui rentre dans le seau, on n'a pas effectivement tout. À l'évidence, l'attractivité résidentielle de votre territoire, elle impacte significativement votre revenu et elle joue dans la captation des richesses extérieures, et donc c'est ça qui remplit le seau. Malheureusement, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelle est la part du résidentiel versus les exportations qui jouent dans la prospérité du territoire ou qui jouent dans l'empreinte écologique. On a réalisé une étude sur 300 zones d'emploi où on a françaises. On a mené la même étude aux États-Unis et sur la partie économique, on a cherché à comprendre quel était le poids relatif des flux résidentiels, des exportations plus tourisme. Et l'effet multiplicateur, l'effet flipper dont je parlais tout à l'heure, dans la richesse d'un territoire. Et en gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Aujourd'hui, ce qui joue en moyenne dans la prospérité d'un territoire, c'est un tiers les exportations plus tourisme, un tiers de revenus résidentiels et un tiers d'effet flipper. Et ce qui est assez intéressant, c'est que est-ce qu'il y a un tiers des efforts qui est mené dans l'effet flipper relativement aux deux autres effets aujourd'hui sur les territoires, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a beaucoup d'efforts qui sont menés pour attirer des nouveaux habitants, il y a beaucoup d'efforts qui sont menés pour exporter. Est-ce qu'il y a autant d'efforts menés, puisque c'est un tiers, un tiers, un tiers, dans le fait d'avoir un circuit économique local, ce n'est pas évident. Ça, c'est sur la partie économique, sur la partie environnementale. L'analyse écologique des flux, c'est quelque chose qui n'est pas présent ici et qui serait à rajouter à l'empreinte que je vous ai présentée. C'est-à-dire que ce n'est pas un enjeu de substitution, c'est en plus. Là, vous avez... l'empreinte du fonctionnement économique du territoire, on pourrait y associer aussi l'empreinte des flux entre les personnes qui travaillent ici et qui vont travailler ailleurs, inversement, etc. Ça, on ne l'a pas pris en compte. Donc, c'est quelque chose en plus. Ça veut dire que c'est hyper intéressant. Votre remarque est très intéressante parce que ça montre d'autant plus l'enjeu et la place de la mobilité dans le réenracinement. C'est-à-dire que là, on est nous des flux de marchandises ou des flux d'argent. Si on prend en plus les flux physiques des personnes qui vont travailler sur le territoire à Nantes ou à Saint-Nazaire, c'est aussi une empreinte qui est associée au fonctionnement de votre territoire. Parce que les personnes ne travaillant pas sur le territoire, c'est une empreinte supplémentaire. Je suis tout à fait d'accord. C'est quelque chose qui est vachement important.
Une autre question, au milieu.
Bonsoir. J'aurais bien aimé une explication, un petit retour sur le tableau qui parle des emplois, parce que j'avoue que c'est un raisonnement qui me semble un peu compliqué. Donc j'aimerais bien que vous me réexpliquiez le tableau des emplois.
Celui-ci ?
Non, celui d'après.
Celui-ci ?
Oui.
Cette bouteille d'eau qui est venue jusqu'à moi ce soir, je parle même pas de l'eau, je vais juste parler du plastique pour cette bouteille d'eau. Pour arriver jusqu'ici, il a fallu a priori extraire du pétrole, des énergies très diverses pour extraire la matière première, pour la transformer, multiples transformations, et puis pour la transporter jusqu'ici. Donc cette bouteille d'eau, qui ne paraît pas, mais c'est plusieurs kilos de matière première dans le monde. Et c'est ça en fait que l'on mesure, c'est-à-dire que on se dit c'est rien, c'est juste du plastique, c'est juste une bouteille d'eau, mais c'est des kilos et des kilos de matière première qui sont mobilisés dans le monde pour parvenir jusqu'à nous. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément visible sur des énergies fossiles nécessaires à ça. C'est j'ai le tableau jusqu'ici, mais par exemple, oui, c'est ça, j'allais dire, c'est 50% d'énergie fossile qui sont en dehors de nos frontières et des matières premières qui, par ailleurs, sont aujourd'hui en plus en tension. Je ne suis même pas sur le déchet, hein. Je ne suis même pas sur la pollution de ce que ça va devenir une fois que je l'aurai fini de l'avoir. Je suis juste sur la quantité de matières premières qui est nécessaire pour produire ce futur déchet. Et c'est ça, en fait, qui est assez intéressant. J'aurais pu prendre cette bouteille d'eau, je peux prendre n'importe quoi qui est aujourd'hui acheté sur le territoire par des ménages, par des entreprises, ou même le secteur public. Pardon. Et c'est ça, en fait, la question qui est intéressante, c'est que, bon, là, je prends un bien grande consommation, mais on peut réfléchir sur des achats stratégiques des entreprises locales. Ce sont des achats qui sont grands dans leur modèle économique, et ce sont des achats qui mobilisent beaucoup de matières premières, qui dépendent de beaucoup de pays où il y a des tensions, déjà des tensions sur la matière première, parce qu'il y a une raréfaction. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un tiers des matières premières qui ne seront plus là dans 15-20 ans. Alors, vous allez me dire, on va peut-être les remplacer par autre chose. Donc ça crée aussi des climats de dépendance et de vulnérabilité. Vous avez aujourd'hui des grandes villes qui, à l'instar des agendas 21, à l'instar des plans climat-énergie, à l'instar de toute la réflexion sur le carbone, mettent en place des plans de résilience aux matières premières. Par exemple, on accompagne et on travaille avec le Grand Lyon, et le Grand Lyon est en train de mettre en place des engagements de réduction de son empreinte matière de son territoire, en disant c'est notre responsabilité, en disant c'est des matières premières qui ne seront plus là dans 15 ans, 20 ans. Imaginez la vallée de la chimie, on a quand même un petit enjeu à essayer de les réduire, à essayer de trouver une solution, à essayer de mettre en place des boucles locales pour pouvoir éviter que ces matières premières viennent de très loin ou mobilisent des carrières, etc. etc. Donc voilà, ça c'est l'exemple sur les matières premières, mais cette même bouteille d'eau a mobilisé pour sa fabrication de l'eau, a mobilisé certains matériaux qui ont nécessité de la déforestation dans certains pays. Enfin voilà, c'est ça en fait le raisonnement de l'empreinte matière première, c'est vous utilisez de la matière première sur votre territoire, mais à l'extérieur ça donne ça. Et la question, c'est: est-ce qu'on accepterait qu'autant de matières premières soient mobilisées sur notre territoire, en l'occurrence le vôtre? On dit non. Et donc en fait la question du réenracinement de l'économie locale, c'est assumer d'une certaine façon une partie de sa pollution. On ne va pas pouvoir tout réenraciner, et c'est de trouver les solutions entrepreneuriales, j'y reviendrai juste après, pour réduire cette empreinte. Voilà. Et l'empreinte, elle prend plein de formes, et au-delà du carbone, on parle beaucoup de CO2, qui est quand même majeur, parce qu'en fait il joue sur le réchauffement climatique, mais il y a tout un tas d'autres empreintes écologiques, elle est multidimensionnelle, avec des répercussions sur... en l'occurrence, tout ce que je vous montre ici, ça a des répercussions sur quelque chose qui est très simple, c'est la biodiversité. C'est-à-dire que plus on mobilise de l'eau, des terres et des matières, plus ça joue sur les espèces qu'on trouve
terre et plus ça les met en danger.
Merci.
Une question en haut là-bas.
Bonsoir. En fait, je voudrais vous poser une question par rapport à l'installation de la grande distribution et des grands parcs commerciaux. L'argument principal, c'est la création d'emplois. Sauf que du coup, on n'y trouve pas de produits locaux. Donc, par rapport à votre schéma, ça veut dire que ça détruit des emplois indirectement. Ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a une balance quand la grande distribution nous dit on crée 500 emplois, par rapport à l'impact que ça a sur le consommé local, combien ça en détruit en fait. Enfin, je voudrais savoir s'il y a une balance ou si c'est possible de calculer ça.
En fait, c'est moi, c'est vous, ouais, c'est moi. Ouais. C'est assez intéressant parce que vous allez voir après dans les exemples que je vais présenter, il y a l'entrepreneuriat de territoire, comme on l'appelle, ce qui vise à une nouvelle manière de faire du développement économique sur le territoire. C'est vrai qu'on peut penser qu'on est sur des modèles alternatifs et quelque part un peu anti-grande distribution. La force de la grande distribution, c'est que très grande partie des achats qui est réalisée par les habitants. Donc en fait, ça a quand même un pouvoir d'impact. Ça ira moins loin dans la politique d'achat local que sur un circuit court. Mais ça a un impact, ça peut avoir un impact énorme sur le territoire. Et aujourd'hui, dans la grande distribution, vous avez des indépendants, des enseignes dépendantes. Vous avez un Hyper U qui est juste à côté, ou les Leclerc, qui parfois ont des politiques d'achat locales dans l'alimentaire qui peuvent aller jusqu'à 10-15%. C'est beaucoup, j'y reviendrai après. Et vous avez d'autres magasins qui sont sur du 1 à 2%. Donc en fait, ça dépend vraiment d'un magasin à l'autre. Il y a des enseignes qui ont quand même des politiques assez intéressantes. Moi, je pense que pour avoir travaillé justement avec des grandes enseignes, il faut aussi avoir l'offre sur le territoire. Parce que on pense peut-être tous les deux aux produits agricoles, aux fruits, légumes qu'on peut trouver en vrac. Mais quand vous regardez votre caddie, vous avez quelques fruits et légumes, mais vous avez surtout plein de produits transformés. Et est-ce qu'aujourd'hui, on transforme suffisamment l'alimentation sur nos territoires? Et c'est ça, en fait. Il faut aussi trouver une offre. On a travaillé avec des directeurs d'hypermarchés qui nous disent, mais on a deux soucis dans la grande distribution. C'est la centralisation des achats. C'est que parfois, on a un truc un petit peu débile qui consiste à... c'est une centrale d'achat qui est à plusieurs centaines de kilomètres qui va acheter le produit et non pas le magasin lui-même. Ça, c'est un vrai souci. Donc, il y a un enjeu à décentraliser la politique d'achat. Après, la deuxième limite, c'est qu'il n'y a pas forcément la possibilité sur les territoires d'acheter. C'est-à-dire que vous avez des territoires qui n'ont pas forcément d'offres locales, de produits transformés, de petites transformations agroalimentaires. C'est pas évident de mettre ça dans la région. Il y a un enjeu de vraie diversité économique sur les territoires. Le fameux 2% d'autonomie alimentaire que je vous ai présenté, ou le fameux 3% d'autonomie fabricante, c'est surtout lié au fait qu'on a perdu énormément en diversité économique en France. Depuis entre 1970 et 2010, on a perdu 50% de la diversité fabricante dans notre pays. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que on peut penser que la désindustrialisation, notamment, est quelque chose d'inéluctable, mais ça joue énormément sur la diversité qu'on peut trouver en magasin. Donc il y a des pratiques dans la grande distribution qui sont contre-intuitives et qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on présente là. Après, il y a aussi une offre qui n'existe pas forcément, en fait. Et l'idée dans les territoires, c'est de faire que cette offre, elle existe et de créer de la diversité. Et aujourd'hui, la diversité, elle n'existe plus beaucoup. Et c'est ça, en fait, l'enjeu sur les territoires, c'est de donner envie à des entrepreneurs, à des acteurs économiques, publics, privés, d'amener toute cette diversité qui n'existe pas forcément.
Une dernière question avant de passer à Madame au milieu. Vous avez parlé des 5% et 10% d'autonomie pour le IPE au niveau local.
Oui.
Est-ce qu'il y a des territoires qui arrivent à avoir plus de 50% d'autonomie?
Non.
Est-ce qu'on peut espérer avoir plus de 50% d'autonomie un jour?
Alors,
Si ça vous intéresse, je vous invite à télécharger l'étude qu'il a, l'autonomie alimentaire des villes françaises. Donc on a réalisé le maximum. Alors attention, on est à la maille des aires urbaines. Le premier travail qui a été mené, c'est l'aire urbaine. Une aire urbaine, c'est large, hein, c'est-à-dire que, si je comprends bien, l'aire urbaine de Nantes vient juste ici. Donc les aires urbaines, la notion d'aire urbaine INSEE, c'est, ça va jusqu'au champ, et il y a quand même la capacité à gagner autonomie. On a aussi fait le travail à la maille des départements, des régions et de la France. Donc j'ai tous les chiffres. Le maximum que l'on peut trouver sur une aire urbaine, c'est Avignon avec 8%. Et vous verrez dans le classement, Nantes est relativement aux autres, dans l'absolu, on peut apprécier le score, mais je crois que c'est 5%. C'est au-delà de 6 pour Nantes et Angers n'est pas très loin. Donc vous avez des territoires qui sont un peu plus autonomes au plan alimentaire. 6% pour Nantes, ça veut dire que dans tout ce que les Nantais, les habitants de l'aire urbaine de Nantes en tout cas, mangent, que ce soit des produits à la maison, à l'extérieur, etc., dans tout ce que l'on mange, tous les produits agricoles qui composent l'alimentation, y en a 6% qui viennent de l'agriculture locale. C'est ça que ça veut dire l'autonomie alimentaire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plein de territoires ruraux, très agricoles, qui ont des niveaux d'autonomie très bas, du type 1%, et alors que 99% de la production agricole de ces territoires sort. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un enjeu à, quelque part, à réorienter d'une certaine façon la production agricole locale vers l'alimentation locale. Il y a eu plein d'effets d'annonce de villes, comme Albi qui a dit oui, nous, 100% d'autonomie alimentaire. Enfin, aujourd'hui, l'autonomie alimentaire d'Albi, c'est 1,8%. Ce n'est pas 100%, c'est 1,8%. Et on dit, enfin, juste objectif. On pense, enfin, aujourd'hui, atteindre, sur le plan alimentaire seulement, atteindre 10 à 15%, ça serait déjà bien. On n'est pas en logique. Enfin, c'est parce que c'est compliqué d'aller au-delà de 15%. Donc les territoires comme Nantes, qui sont à 5-6, enfin les aires urbaines de Nantes en tout cas, atteindre 10 plus 15%, ça serait déjà pas mal. Je les ai plus en tête, mais on a fait des simulations, ce que ça représenterait par habitant en euros d'être aux alentours de 15% d'autonomie. Aujourd'hui, le 2,1%, ça veut dire que chaque année, en moyenne, un habitant d'une aire urbaine dépense 15 euros. Enfin, il y a 15 euros qui reviennent à des agriculteurs locaux. Des 15 euros, c'est pas du circuit court, ou des produits agricoles qui sont inclus dans la consommation des habitants. 15 euros par habitant, c'est quand même pas beaucoup. Donc, si on veut aujourd'hui, je pense que c'est entre 100, je crois que c'est de mémoire, c'est entre 100 et 150 euros par habitant et par an, pour avoir un bon niveau d'autonomie autour de 15%. Mais les chiffres qui sont annoncés ou les ambitions politiques aux alentours de 5%, de 50%, c'est juste pas possible, parce qu'il suffit de regarder son alimentation quotidienne et se rendre compte que voilà, c'est dans une économie relativement ouverte. Donc 15%, ça serait bien, et on en est assez loin pour beaucoup de territoires.
En comparaison de l'IPE, qui est un circuit long, si plus d'enseignes proposaient des circuits courts, ça reviendrait à combien à peu près de pourcents
Alors, ça dépend d'un minage, je vais dire que peut-être pas vous, peut-être pas moi, peut-être, mais en moyenne, le panier moyen d'un Français, c'est 95% de produits transformés. Donc ça veut dire que si on joue sur les circuits courts, c'est sur les 5%. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur les circuits courts. Peut-être aussi faire que les Français mangent moins de produits transformés et qu'on baisse ce taux-là. Mais si on reste sur les habitudes alimentaires des Français aujourd'hui, on ne jouerait que sur les 5%. Donc on voit bien que ne jouer uniquement sur les circuits courts, ça permet de gagner quelques points d'autonomie, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, l'énorme enjeu, c'est... Bien évidemment, je suis le premier à défendre les circuits courts, mais très raisonnablement, du coup, en sortant cette étude, j'ai pu discuter avec pas mal d'experts. Et aujourd'hui, l'enjeu numéro un, c'est d'avoir des yaourts locaux, d'avoir des plats cuisinés locaux, d'avoir des choses transformées que les gens mangent, en fait, à moins de modifier radicalement, d'avoir des biscuits locaux. C'est ça, enfin, d'arriver à créer des vrais hubs alimentaires locaux où on peut vraiment aller du champ à l'assiette, mais pas que par des circuits courts, c'est du champ
à l'assiette en passant par de la production locale. Et c'est ça qui manque beaucoup au territoire, et idem dans la fabrication, c'est-à-dire qu'on a cassé énormément de chaînes de valeur qui existaient par le passé, il y a très longtemps, il y a 80 ans, 50 ans, et dans l'alimentation, il y avait beaucoup plus de transformations avant sur les territoires, et aujourd'hui, on a des territoires qui sont hyper spécialisés au plan agricole, et qui parfois ont les ressources pour se retrouver dans les assiettes, mais n'ayant pas l'outil de transformation, ben, on n'arrive pas à retrouver ça dans l'assiette des habitants. Voilà. Donc si on faisait du circuit court, en fait il y a deux choses, il y a un peu plus de permaculture, d'autonomie dans son jardin, etc. Voilà. Plus de circuit court, on pense qu'on pourrait gagner 1, 2, 3 points, mais c'est déjà ça, c'est beaucoup. Mais c'est pas ça qui fait qu'on arrivera à atteindre un objectif raisonnable pour une ville de 100 000 habitants. L'objectif raisonnable, c'est d'être aux alentours des 15%. 15%, ça fait baisser significativement les empreintes écologiques, dont je parle à l'instant. Ça a déjà un impact considérable sur l'empreinte écologique. Et puis, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de créer du lien social, etc. Mais le circuit court ne suffit pas, en fait. Malheureusement, quand on parle d'alimentation locale, on a souvent tendance à limiter le débat au circuit court. Et je ne suis pas là pour dire que ça... Au contraire, je suis là pour le défendre, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut pas seulement... Il faut que dans les drives fermiers, puisque c'est un truc à la mode, il faut aussi qu'on ait plus de produits transformés. Voilà, ça c'est important.
Une dernière question pour ce temps de débat. Non, c'était et bonne. Après, on prendra la seconde partie. Je vous en prie.
Marche. Non, c'était pas une question, en fait, c'était une réflexion. Juste, puisqu'on est sur Savenay et tout ça, je suis là en tant que... Je suis confrontée à un petit truc, là. D'aller très souvent à l'IHPAD de Savenay, de se rendre compte que le soir, par exemple, les personnes âgées mangent des sachets, un potage en sachet. À côté de ça, à quelques kilomètres, il y a les gens de la cueillette de Lille qui récoltent en ce moment du butternut qui vendent 1,50€ et ils en ont plus de 3 tonnes. Ils ont du mal à l'écouler. Je me dis, mais il ne pourrait pas y avoir quelqu'un, un intermédiaire. C'est juste une réflexion.
C'est bien l'enjeu, en fait, c'est d'identifier les... Quand je parle de pub alimentaire local, en fait, c'est arriver à faire du champ à l'assiette, arriver à faire le lien entre les gens, arriver à développer des modèles entrepreneuriaux sur les territoires. Et en fait, c'est ça, tous les territoires ont besoin. Et...
Là, il y a 180 personnes qui mangent mal. Et à côté de ça, 3 km, il y a des gens qui produisent.
Et je sais bien.
Bon, et comment on peut mettre... Alors, en fait, ils ont fait le choix il y a 4 ans, parce que je me suis renseignée, parce que j'ai envoyé des lettres, parce que j'ai quelqu'un qui est dans cette maison, et j'ai un peu sondé les gens. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les personnes? Alors qu'on nous parle de transversalité, on nous parle de un tas de trucs, et les personnes âgées qui sont très âgées dans cette maison disent... On voudrait bien manger. C'est simple. On voudrait un potage le soir.
Il faut que un ou plusieurs acteurs prennent en main le sujet. Mais vous allez le voir tout dans la dernière partie sur comment faire émerger ces nouveaux entrepreneurs. Il y a plein de nouvelles solutions. Et par exemple, la solution, le challenge que vous proposez, c'est un challenge qui pourrait tout à fait prendre sa forme dans... vous allez le voir, je vous en parlerai tout à l'heure, les startups de territoire, c'est... une espèce de grand brainstorming géant sur les territoires qui vise à faire émerger des projets entrepreneuriaux dont le territoire a besoin. Et je vous en parlerai quelques secondes. Mais c'est justement ça dont le territoire a besoin, c'est d'avoir des défis, de se dire, mais là, typiquement, il y a un projet entrepreneurial à faire, qui peut le porter, comment, etc. Et c'est ça, en fait, on est dans une nouvelle vision, une bonne transition avec la suite, le développement économique traditionnel qui consiste... Alors, moi, j'appelle ça de l'entrepreneuriat territoire. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Il y a la Caisse des dépôts qui a sorti un rapport il y a un an et demi et qui expliquait que la façon de faire du développement économique traditionnel avec une agence de développement qui joue sur l'implantation d'entreprises ou la captation de richesses extérieures avec le foncier, avec des aides économiques, etc., cette boîte à outils-là, en fait, elle devient complètement obsolète par rapport aux nouveaux enjeux entrepreneuriaux des territoires. Et aujourd'hui, il faut inventer des nouvelles façons, publiques, privées, publiques et privées, de faire émerger tous ces entrepreneurs. Et parce que là on n'a pas forcément l'entrepreneur, ou le porteur ou la coopérative, peu importe la notion entrepreneuriale, la manière dont on pourrait envisager l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément encore l'entrepreneur. Mais une fois qu'on l'a, ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'il faut vraiment l'incuber, il faut l'amener jusqu'au bout. Et c'est là, en fait, qu'il faut innover en matière de développement économique. Ça ne suffit pas de dire, bah, tiens, je te donne une aide fiscale ou je te donne tant de mètres carrés ou je t'offre tant de mètres carrés de foncier à un prix raisonnable. En fait, le développement économique très classique de ce format-là ne suffit pas. Il faut inventer des nouveaux formats de développement. Et c'est là, en fait, que c'est assez intéressant et que dans la dernière partie, je vous présentais quelques exemples et c'est l'enjeu de aussi que vous puissiez réagir sur les exemples d'outils de développement économique qui existent ailleurs, ou en France, ou à l'international. Je vous les présenterai en dernière partie, vous verrez. Vous pourrez vous dire, ah oui, mais là, c'est un outil intéressant, justement, pour faire émerger le type d'entrepreneuriat qui serait idéal dans le cas que vous citez.
On va pouvoir passer à la seconde partie. Monsieur Florentin, je vous demanderai de parler un peu plus fort pour que votre information parvienne à toutes les oreilles.
Oui.
Donc en fait, il y a pour animer la soirée, on a imaginé deux parties après ce petit diagnostic. La première, en fait, elle vise à vous présenter 10 grandes idées d'entrepreneuriat local qui émergent en France, à l'international, des entrepreneurs de territoire qui se disent « je vais répondre à un marché local avec des ressources locales », la définition de l'entrepreneuriat local, de territoire. Dans ces 10 idées, ce qui peut être assez intéressant, donc on vous a présenté le format tout à l'heure pour réagir avec les feuilles, hein, c'est ça. Ce serait pour vous de réagir oralement ou par écrit, en tout cas de noter là où les idées qui vous paraissent les meilleures idées à appliquer sur ce territoire au regard de ses besoins, au regard de ce que vous, en tout cas, par votre expérience, votre quotidien, vous semble prioritaire. Je vais vous présenter ces idées. Et ensuite, on fera exactement le même raisonnement, le même exercice avec des idées pour faciliter ces entrepreneurs de territoire. Là, la première étape, c'est de comprendre quelles sont les... Donc, il y a des choses que vous connaissez déjà, mais quelles sont aujourd'hui les meilleures façons d'entreprendre localement. Et la deuxième partie, comment on peut soutenir ces entrepreneurs de territoire. Donc 10 idées pour entreprendre localement. La plus, je dirais, la plus brute de ces idées et qui commence vraiment à prendre de l'ampleur en France, alors ça fait le lien avec la question des circuits courts dont on parle à l'instant, c'est les supermarchés locaux, les supermarchés paysans, de plus en plus structurés, de plus en plus marketés. Vous avez en haut à gauche l'exemple de Cœur Paysan à Colmar. On n'est pas simplement dans le regroupement basique d'agriculteurs. Là, ils se sont vraiment créés une coopérative. Ils se partagent le temps dans le magasin. Chaque agriculteur, chaque producteur est mis en évidence. Donc là, à l'entrée, vous avez par exemple une présentation. Et puis, il y a une interaction dans le magasin. Donc c'est quelque chose qui est relativement bien structuré. Un exemple, l'exemple le plus suprême que moi je connaisse, c'est une enseigne qui s'appelle Locavorium. Je vous invite à aller voir leur site internet. C'est une enseigne qui est basée à Montpellier et qui fait 100% de produits locaux. Donc ils ont une charte, ils ont créé un label, ils ont même créé un indicateur pour prouver que les produits viennent de, je crois que c'est 80, 100 km, ça dépend. Et l'intégralité du magasin, c'est des produits locaux. Donc ils sont à côté de Montpellier. Et le magasin cartonne. Donc là, pour le coup, c'est pas des agriculteurs, ce sont des producteurs, des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises qui étaient liés de près ou de loin au monde agricole, mais qui ne sont pas forcément eux-mêmes des agriculteurs, et qui ont du coup lancé ce concept-là, je crois que ce sont des ingénieurs, et ça cartonne, et en fait, ils ont vraiment, quand on rentre dedans, on sait que l'intégralité de l'offre est locale, prouvé avec vraiment une grosse transparence. Et ça, c'est un exemple très très intéressant. Donc, sur leur site internet, ils communiquent beaucoup dessus, et il y a toute une communauté Alors après, on peut y entrer dans le magasin en étant un hyper locavore. Ils communiquent beaucoup d'ailleurs là-dessus. Et très récemment, ils ont ouvert un drive. Ils se sont mis aussi au drive. Et c'est vraiment un concept assez fort. Après, au-delà de ça, au-delà de ces concepts assez structurés, il y a effectivement les concepts de drive fermier qui se développent beaucoup en France, où on a les agriculteurs qui se relaient chaque semaine pour distribuer en main propre les commandes qui ont été faites précédemment par Internet, par les consommateurs. Et c'est quelque chose qui se développe beaucoup, beaucoup. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y en a vraiment à travers toute la France. Et le supermarché local, le supermarché paysan, que ce soit un regroupement d'agriculteurs ou une vision classique du supermarché, là, ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure sur ça. C'est quelque chose qui permet de challenger énormément la grande distribution. Et face à la montée de ces nouveaux modèles, il existe des modèles de plus importants, de type 500, 1000 m2, sur des produits pas forcément locaux, mais à dimension régionale qui se développent. Alors, il y a 3-4 grandes enseignes qui se sont développées aujourd'hui sur le local et qui appartiennent à des grandes enseignes de distribution qui aujourd'hui testent ces concepts locaux, régionaux, pour pouvoir les appliquer un jour dans leur rayon. Alors après, il y a la question de la cible, du prix, on en reparlera. Mais la grande distribution est aujourd'hui sur ce marché-là parce qu'en fait, elle est en train de développer des concepts. De même que la grande distribution lance des concepts uniquement dédiés au bio, ils sont en train de lancer des formats 100% ou en tout cas en partie locale. Ça, c'est l'exemple, je dirais, qui est assez facile à mettre en place et qui répond à une vraie demande sur les territoires. Exemple 2. Qui répond à énormément d'enjeux, c'est la transformation, l'agriculteur transformateur. Se dire, je ne suis pas simplement agriculteur, je peux passer dans le monde de l'agroalimentaire parce que je vais devenir artisan pastier, j'ai du blé, je vais en faire des pâtes, je peux faire de la bière avec une microbrasserie, je peux intégrer une micro-usine ou partager avec d'autres éleveurs un micro-abattoir, qui est une forme de micro-usine, c'est l'exemple que vous avez ici. Donc installer un micro-abattoir dans une ferme ou se partager ce micro-abattoir, c'est un concept qui est en réflexion depuis 2-3 ans et qui tend à se développer. C'est aussi, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est dans la diversification des revenus. Et bon, vous le savez, la filière laitière, c'est une filière qui souffre vraiment. Et être capable de monter sur la transformation, ça permet de voir les choses très différemment, notamment sur les revenus. C'est-à-dire que voilà, quand on a les 1000 litres à 300 euros et que lorsqu'on on est capable de les transformer soi-même, c'est comme si on s'achetait soi-même la même quantité à plutôt 500 ou 600. Et donc aujourd'hui, il y a un gros mouvement sur la transformation laitière, regroupée ou isolée. Et donc, en fait, la capacité à transformer... Donc, tout à l'heure, je parlais d'enjeux d'avoir des produits alimentaires transformés sur les territoires. Effectivement, là où il y a un énorme enjeu, c'est d'amener les agriculteurs vers la transformation. Il y a plein de façons. Cette transformation, voilà, elle peut être soit dans l'exploitation ou partagée. Je présenterai des exemples tout à l'heure à travers des incubateurs, des food labs. Il y a plein de possibilités pour faciliter cette transformation. Mais c'est aujourd'hui un des enjeux majeurs. D'amener, alors bien évidemment tout le monde ne peut pas, et c'est pas évident, puis parfois ça peut être considéré comme à juste titre comme un autre métier, mais c'est un véritable enjeu. Et ceux qui se sont lancés là-dedans ne le regrettent pas. Là, typiquement, vous avez de plus en plus d'artisans pastiers aujourd'hui qui se disent, alors notamment dans la culture de céréales qui est assez cyclique, saisonnière plutôt, parfois cyclique, mais surtout saisonnière. Et du coup, c'est assez intéressant pour l'équilibre de l'activité de transformer ça en pâte ou en biscuit, etc. Idée numéro 3, toujours dans l'alimentation. Alors ça, c'est une idée que je ne vais pas influencer, mais que j'aime beaucoup. C'est la collecte et la valorisation des invendus alimentaires pour en faire d'autres produits alimentaires ou pas. Tout à l'heure, je parlais de l'empreinte matière première, des empreintes écologiques. Et on pourrait se dire, oui, mais alors, c'est pas évident parce que parfois, sur notre territoire, on n'a pas les ressources. Je suis dans l'Est, dans le Nord.